place publique.
C'est The Place to Be actuellement pour les passionnés d'horlogerie. Le salon Baselworld a ouvert ses portes hier à Bâle, mais on a bien du mal à savoir si l'horlogerie se dirige ou pas vers une reprise économique. Avec une chef d'entreprise, Catherine Friot-Auclin, et un spécialiste du milieu, Grégory Ponce, on va tenter de savoir si on va ou pas vers de beaux jours ou si la crise continue. Et Baselworld, ce sera également au menu de la chronique humoristique de Céline Favre. Les bâtiments historiques de notre patrimoine, on retouche ou au contraire, pas touche. On en débat suite à la levée de boucliers provoquée par la rénovation du cloître de la collégiale à Neuchâtel. Un jeune élu PLR, Jules Aubert, et le chef de l'office du patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel, Jacques Bujard, seront avec nous pour en parler. On va aussi parler basket avec le tour intermédiaire qui débute ce soir. Ce n'est plus la saison régulière, ce n'est pas encore les playoffs, bref, c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'on va en discuter avec le directeur de la Swiss Basket League, Valentin Wegmann. On évoquera aussi le sort des clubs de Lausanne et Suisse centrale au bord de la faillite. Tout ça, c'est dans Place Publique. Bienvenue.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Jérémy Pignard.
Bonsoir. On ne pouvait pas passer à côté de Baselworld cette semaine, le grand salon horloger qui a ouvert ses portes hier à Bâle. 1300 exposants, c'est la grand-messe annuelle de l'horlogerie. Et on va y aller sans plus tarder pour retrouver notamment Grégory Ponce. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory Ponce, journaliste, blogueur, spécialiste du milieu horloger. Et puis avec nous également une chef d'entreprise, Catherine Friot-Auclin. Bonsoir.
Elle n'est pas encore là, elle va arriver bientôt.
Elle n'est pas encore avec nous, Catherine Friot-Auclin. Bon, elle va arriver, pas de problème. On parlait donc de la conjoncture économique de l'horlogerie parce que Baselworld a ouvert ses portes sur fond de mauvais chiffres des exportations suisses. Elles sont encore en baisse, moins 10% sur un an. Et malgré tout, Éric Bertrand, le président du comité des exposants, parle d'une reprise bientôt amorcée. La directrice de Baselworld, Sylvie Ritter, promet le beau temps après la pluie. Alors, est-ce que c'est bientôt la reprise, Grégory Ponce? Vous avez pu vous balader un petit peu dans les couloirs de Baselworld. World, quelle est la tendance?
De toute façon, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Tout dépend de quand on parle. L'année dernière, le patron des exposants nous avait promis la reprise pour le mois d'avril. Mais il n'avait pas dit si c'était avril 2017, 2018, 2019 ou plus tard. Donc cette année, ils nous refont le même coup. Franchement, personne ne sait si ça va reprendre. Mon sentiment personnel est que ça va reprendre, bien sûr, mais sans doute pas avant la fin de l'année. Et on s'en aperçoit dans les allées, il y a quand même 200 exposants de moins à Baselworld, ça n'était pas arrivé depuis des années. Il y a beaucoup moins de visiteurs, donc c'est pas une grande année, c'est même une petite année, une année commercialement médiocre, mais il y a des germes de reprise, c'est évident. Et demain il fera beau, maintenant demain ça peut être dans longtemps.
Alors justement, Grégory Ponce, je voudrais vous faire écouter un morceau d'interview de Jean-Claude Lachat. Il est délégué à la promotion économique jurassienne et en côtoyant les entreprises au quotidien dans son travail, il a eu, on va dire, quelques prémices d'une reprise annoncée. On l'écoute.
Moi, je me base un peu sur ces deux, trois dernières années par rapport au nombre de dossiers que la promotion économique a traité. Les années 2015 et 2016 n'ont pas été excellentes. Pour l'année 2017, on a reçu davantage de dossiers. Donc, quand on reçoit des dossiers, c'est des projets qui arrivent et on sent que non seulement il y en a davantage de ces projets, mais il nous semble qu'ils devraient se concrétiser. Si c'est pas en 2017, c'est en 2018. Donc, c'est dans ce sens-là que, d'après moi, on a atteint le creux de la vague et on est en train de remonter gentiment.
Ça veut dire de nouveaux investissements? Ça veut dire potentiellement que les carnets de commandes s'étoffent?
Ça peut être des investissements, soit des bâtiments, soit des machines, soit des nouveaux processus de fabrication. Et puis là derrière, il peut y avoir des créations de postes de travail. Et puis on a aussi, de la part de nos projets qui viennent de l'étranger avec Basel Area Suisse, on sent qu'en 2017, on devrait avoir quand même des résultats supérieurs à ceux de 2015 et 2016.
Avec ce que vient de dire Jean-Claude Lachat, ce sont des choses que vous percevez aussi, Grégory Ponce?
Bien sûr, il n'y a jamais eu autant de nouveaux projets, de nouvelles marques que maintenant. La démographie horlogère est en plein boom. Il y a une explosion des nouveaux projets. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est que ces nouveaux projets mobilisent généralement quelques postes, mobilisent généralement quelques machines. La crise aujourd'hui, c'est la crise des grandes marques. C'est la crise de l'offre actuelle. C'est pas du tout la crise de la demande. Les gens aiment les belles montres. Les gens veulent acheter les belles montres, mais ils veulent plus acheter les mêmes montres qu'hier, au même prix qu'hier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on doit tous reformater notre logiciel de travail. Et c'est là que ça coince, parce que les grandes marques restent trop conservatrices par rapport aux nouvelles attentes des consommateurs.
On va justement en discuter avec Catherine Friot-Auclin. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes chef d'entreprise, d'une entreprise de polissage à la Neuveville qui travaille pour l'horlogerie. On vient d'entendre, pour résumer, Jean-Claude Lachat qui disait qu'il sentait, le délégué à la promotion économique jurassienne, qui sentait des signes de reprise. Est-ce que vous, dans la sous-traitance, est-ce que vous les percevez aussi, ces signes avant-coureurs ?
Bah écoutez, c'est tout récent. On a effectivement l'impression que, moi j'ai coutume de dire maintenant que ça frétille, on a l'impression que les quantités de pièces sont un peu plus grandes que ça ne l'a été en 2016 et 2015. Maintenant, est-ce que c'est le signe d'une reprise vraiment de l'activité horlogère ? Ça, je peux pas vous garantir. Je peux pas vous dire oui, je ne sais pas, j'ai pas assez d'informations.
Est-ce qu'on remarque que c'est l'univers un peu flou en termes d'informations ? Ça, c'est une constante depuis plusieurs mois, voire années.
Oui, alors nous, on connaît une baisse depuis 2015 déjà. Et effectivement, c'est très compliqué de savoir puisqu'on n'a pas, on s'inscrit dans une chaîne de sous-traitants, donc on n'a effectivement pas la possibilité de savoir ce qu'il en est des marques et quelle est leur situation actuellement. Ça, c'est très compliqué.
Grégory Ponce, comment interpréter la baisse du nombre d'exposants ? Parce qu'on en a parlé ces derniers jours, 1300 exposants cette année à Baselworld contre 1500 l'an dernier. Il faut y voir un signe négatif ou alors pas spécialement ?
Ouais, c'est pas un signe très positif, c'est évident. Mais c'est pas dramatique non plus. Il y a plus d'argent qui circule, il y a plus de trésorerie, donc les marques qui sont un peu étranglées ne viennent pas à Baselworld. Mais moi, je suis prêt à vous parier que on est qu'au début de la décroissance pour Baselworld. Je pense qu'il y a encore 150 ou 200 marques qui ne viendront pas l'année prochaine, tout compris. Alors ça n'intéresse pas que l'horlogerie, bien sûr. Il y a aussi des bijoux, mais il y a 80 marques horlogères qui ne sont pas revenues cette année. Il y en aura 80 de plus l'année prochaine. Mais c'est pas anormal. Tout est en mutation en ce moment dans l'horlogerie comme dans le reste de l'économie d'ailleurs. Le média salon horloger tel qu'on l'a connu jusqu'à présent doit lui aussi évoluer, se transformer. C'est ce qui est en train de se passer. Les gens trouvent aujourd'hui d'autres moyens de toucher les détaillants et les clients que des salons comme Baselworld. Mais c'est tout à fait normal. Les signes de reprise, alors j'ai adoré qu'on me dise que ça frétille. Je suis tout à fait d'accord. C'est très joli comme expression, ça frétille. Le problème, c'est que on a quand même pris moins 10 pour les exportations le mois dernier, après un moins 6 en janvier. Ça veut dire qu'on va terminer l'année encore autour de moins 12, moins 15. C'est quand même très grave toute cette affaire.
Alors justement,
personne ne s'en soucie.
Il y a des réactions qui tentent de s'organiser, notamment dernièrement Richemont, Swatch qui annonce la création de centres d'innovation, de recherche. Catherine Friot-Auclin, c'est ça la solution ? C'est aller vers les nouvelles technologies, vers le connecté ?
Alors là, je suis aussi très mal passée pour vous en parler, puisque nous, on s'inscrit dans le haut de gamme, l'horlogerie, on va dire, traditionnelle.
D'accord.
Maintenant, sur les montres connectées, est-ce qu'il y aura des produits qui nécessiteront le même niveau de précision que celui qu'on réalise au niveau des pièces classiques, on va dire, je ne sais pas. Il est clair que c'est difficile de y échapper. Je pense pas que l'horlogerie suisse pourra complètement y échapper.
Alors après, on parle de crise, Grégory Ponce. Avant Noël, vous aviez évoqué sur cette même antenne des licenciements massifs à venir chez Cartier, 350 emplois, je crois. Il n'y a rien eu depuis. Oui. Ça veut dire quoi ? C'est abandonné, ça va arriver ?
Non, pas du tout. Et tout le monde se disait... On a eu, un léger mieux, mais un petit coup de frein sur le déclin en fin d'année. Tout le monde s'est dit, ça y est, ça reprend. Après, tout le monde nous a dit, ça va reprendre en janvier. Ben non, en janvier, c'était moins 6. Et puis après, on nous a dit, ça va reprendre en février. Ah ben non, en février, c'était moins 10. Là, je pense que mars, ça va être du moins 10 aussi. Donc, la machine est manifestement en train de freiner très fort, il va falloir y aller. Il va falloir se débrouiller pour ajuster les effectifs à l'activité. Et les licenciements, à mon point de vue, sont à venir, mais personne ne veut être le premier à l'annoncer. Mais même le Swatch Group se prépare à des mini-plans sociaux ici et là. Donc, c'est pas compliqué, on va se parler franchement, on est planté. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre et de savoir, c'est comment on peut s'en sortir. Alors, vous parliez du connecté, moi je veux bien, mais je pense qu'effectivement, c'est une part de l'avenir. Le groupe américain Fossil a
fait... En 10 secondes, Grégory Ponce.
À basculer sur le connecté. Mais il y a moins de monde connecté à Baselworld cette année qu'il y a 2 ans. Donc on se fout un peu de notre gueule.
Très bien. Merci beaucoup Grégory Ponce d'avoir été avec nous. Merci pour le franc-parler. Catherine Friot-Auclin, merci également de votre présence dans Place Publique.
Je vous en prie.
Et on vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite une très bonne soirée du côté de Baselworld. Et d'ailleurs, on en reparle dans un instant du Salon Ballois avec la chronique de Céline Favre. Ce sera juste après les infos présentées par Sonia Bernauer-Mia. Bonsoir Sonia.
Place publique.
Place publique, 18h32. On était il y a quelques instants en direct de Baselworld avec Catherine Friot-Auclin et Grégory Ponce. Eh bien, il y en a aussi qui ne veulent pas y aller à Baselworld. C'est le cas de Céline Favre. Bonsoir Céline.
Bonsoir Jérémy.
Céline, pourquoi vous ne voulez pas aller à ce salon de l'horlogerie, dites-moi?
Alors, à l'heure où je vous parle, je tiens déjà à saluer nos deux invités qui, eux, se trouvent à Baselworld. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi moi, je n'irai pas. Alors la première raison est une raison assez évidente et simple, c'est que je n'ai pas été invitée. Ah oui, c'est surprenant. Alors je ne sais pas s'il y a eu un problème dans l'envoi des invitations, c'est juste une faute absolue de bon goût. Et à vrai dire, je m'en fiche, je ne tiens pas à chercher midi à 14h. Je ne me rendrai pas à Baselworld non plus, parce que je ne suis pas en quête de frustration à tout prix. Et là, pour le coup, les prix sont plutôt élevés et les frustrations de ma vie plutôt nombreuses. Je ne vois donc pas pourquoi j'irais admirer des montres que je ne pourrais jamais m'acheter et que, vu ma situation sentimentale à grande complication, personne ne m'offrira. Je tiens toutefois à préciser que si quelqu'un veut me faire plaisir, je ne suis pas contre les cadeaux et ce, quelle que soit l'heure, mon anniversaire étant au mois d'avril. Alors, ces deux premières raisons, la non-invitation et la frustration, peuvent paraître un peu futiles. Et c'est vrai. Mais finalement, c'est assez en adéquation avec ce salon mondial de l'horlogerie du luxe, hein, avec ses soirées privées où le champagne coule à flot, avec ses shows où l'on est sûr de ne pas passer un sale quart d'heure, sauf si, bien entendu, on n'y a pas été convié, avec ses concerts surprises de Depeche Mode et autres groupes trop cool. C'est insupportable, si vous saviez comme je suis contente de ne pas être invitée et de ne pas devoir m'infliger tout ça. Non, moi je suis bien plus profonde que ces considérations à 2 balles, ou plutôt à 2 millions, et je ne me rendrai pas à Baselworld pour une troisième raison, celle-ci bien plus grave. Leonardo DiCaprio ne sera pas présent cette année. Alors, nos cartons d'invitation ont certainement été perdus par le même postier, mais mon horloge biologique ayant atteint son paroxysme, un pic quasi légendaire qu'elle ferait rêver toutes les petites entreprises horlogères en pleine décroissance, hein, vous savez, celles qui ne sont pas présentes, elles non plus, cette année à Baselworld, 200 exposants de moins qu'en 2016 tout de même. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais me balader dans un endroit où je ne peux même plus rêver d'un enfant qui serait beau, riche, ça c'est la partie DiCaprio, et intelligent. Ça, c'est plutôt ma spécialité. Alors, malgré tout, je ne suis pas complètement contre une invitation de dernière minute. Hein. Il faut remettre les pendules à l'heure. Si Jude Law est présent et si ce n'est pas en pleine heure de pointe, faites-moi signe. J'aspire, comme tout le monde, à mon heure de gloire et pourquoi pas à partager un quart d'heure américain avec ces gens-là.
Merci beaucoup Céline, j'ai bien retenu votre anniversaire en avril hein, pour une montre Richard Mille, en porte-clé évidemment.
Le 29.
Elle sera en porte-clé la montre, désolé.
Place publique.
C'était un cloître avec un petit jardin aux allures monastiques, quelques bandes de gazon entrecoupées de petites allées en gravier, au centre un parterre de fleurs, le tout orné de piliers en vieille pierre. Mais ça, c'était avant. Désormais, adieu piliers, fleurs et gravier. L'endroit est une vaste étendue de dalles blanches qui tranchent avec la vieille pierre de la collégiale de Neuchâtel. C'est bien de ce bâtiment historique, monument emblématique dont il s'agit. Et cette récente rénovation fait jaser. Une intervention au Conseil Général il y a 10 jours a suscité de vifs débats dans les médias, sur les réseaux sociaux. Des artistes s'en sont allègrement moqués pas plus tard qu'hier. Jusqu'où peut-on revisiter le patrimoine? On retouche ou pas touche? Le débat est ouvert dans Place Publique avec Jules Aubert qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jules Aubert, fraîchement élu PLR au Conseil Général de Neuchâtel, c'est vous qui avez interpellé hein, les autorités au sujet de cette restauration, sidéré par le résultat. Et on est également avec Jacques Bujard. Bonsoir.
Bonsoir.
Chef de l'Office du patrimoine et de l'archéologie pour le canton de Neuchâtel, vous avez été consulté au sujet de ce cloître. D'abord, Jules Aubert, élu PLR, qu'est-ce qui vous choque finalement dans cette rénovation? Pourquoi est-ce que vous tenez tant à l'aspect d'autrefois de ce cloître de la collégiale?
Alors, il y a plusieurs raisons, mais la première, elle est peut-être la plus importante, c'est qu'à mon sens, on ne peut pas réhabiliter la fonction d'un lieu comme celui-là pour la simple et bonne... des fonctions utilitaires, des petits concerts, des activités ludiques. À mon sens, il doit garder ce côté sacré et on ne peut pas désacraliser le lieu comme ça.
Jacques Bujard, surpris par cette levée de bouclier à laquelle on assiste depuis quelques jours?
Non, pas complètement surpris. J'entends chaque fois qu'on modifie un aspect d'un monument historique, il y a effectivement une levée de bouclier ou tout au moins une incompréhension. Après, il faut voir comment on peut continuer à aller de l'avant et comment on peut surtout expliquer ce qui a été fait et ce qui va continuer à se faire puisque c'est un aspect provisoire qui est visible actuellement.
Est-ce que selon vous, le caractère religieux de l'édifice a ajouté à l'affaire une tournure encore plus délicate et plus sensible ?
Peut-être. En même temps, si l'on se souvient de la polémique autour de la pyramide du Louvre, il peut y avoir une polémique sur d'autres bâtiments que des bâtiments religieux.
Alors, j'aimerais, messieurs, qu'on débatte autour d'un article que j'ai découvert moi-même aujourd'hui, hein, qui s'appelle l'article 9 de la Charte de Venise sur la conservation et restauration des monuments. Je vais le lire. La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver, de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne. Dans le cas présent, comment il faut interpréter ce texte, par exemple, Jules Aubert, pour vous ? On est allé à l'encontre de cette ligne directrice ?
Effectivement, on a quand même changé fondamentalement la structure du cloître. D'un petit jardin, on est passé à des dalles, un sol stérile qui crie énormément avec le reste du monument néo-gothique. Et puis, en plus, ce que je trouve un peu spécial, c'est qu'on ait rompu les volumes. C'est-à-dire qu'avant, on avait un pré au carré dans un cloître carré. Et puis maintenant, on a un pré au rectangle. On a coupé la barrière et on se retrouve avec une rupture des volumes qui est aussi dérangeante.
Jacques Bujard, c'est vrai que quand on parle de respect de la substance ancienne et qu'on voit ce qui a été fait, on a le droit de s'interroger quand même.
Tout à fait. Mais je crois qu'il faut se souvenir de l'histoire du cloître. C'est donc un cloître qui a été construit au XIIIe siècle, qui a été reconstruit en 1450, je vous la fais courte, hein, en 1450 après l'incendie de la ville de Neuchâtel, qui a été ensuite désaffecté à la réforme et occupé par toutes sortes de bâtiments, puis restauré dans les années 1870 par Léo Châtelain sous une forme, en le séparant de la collégiale par l'ajout d'un passage, et ensuite fermé par une grille en 1905. Puis ensuite, les aménagements du jardin ont été intégralement arrachés et renouvelés dans les années 1950. Donc on n'est pas face à un objet qui était dans son état primitif. Et c'est pour cette raison qu'il est apparu nécessaire de restaurer, selon les règles de l'art, l'intégralité des structures anciennes, celles qui étaient soit médiévales, soit de l'époque de Léo Châtelain d'ailleurs, mais que l'on pouvait intervenir un peu différemment sur le sol des années 1950.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce qu'on constate, c'est que finalement, à chaque époque, apporte sa pierre à l'édifice. D'ailleurs, Jules Aubert, si on suit votre raisonnement, elle n'aurait pas l'allure justement qu'elle a aujourd'hui, cette collégiale. Par exemple, la deuxième tour de l'édifice, elle date de 1870, ce qui veut dire que si on ne touchait jamais un édifice, il n'aurait pas été dans cet état.
Alors effectivement, mais les principes que Viollet-le-Duc à l'époque avait un peu mis sur le devant de la scène sont loin d'être aujourd'hui, sont loin de faire l'unanimité aujourd'hui. Et je crois que lui qui disait restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, c'est le réparer, le refaire, ou c'est le rétablir dans un état complet qui ne peut n'avoir jamais existé à un moment donné. C'est-à-dire que lui, il avait une idée d'un monument historique, il fallait l'imaginer dans sa forme parfaite. Et c'est-à-dire que la collégiale, il a voulu la faire avec une structure parfaite, deux tours, des tuiles bourguignonnes. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'arriverait plus.
Alors, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a un texte, à savoir la Charte de Venise, qui pose finalement des garde-fous sur la restauration. Est-ce qu'un autre garde-fou, ce ne serait pas tout simplement l'avis de la population ? Jacques Bujard, c'est une démarche participative qui émerge de plus en plus dans les projets urbanistiques. Pour ce qui touche au patrimoine, est-ce qu'on devrait, selon vous, davantage consulter la population ?
Alors, il faut de toute façon très largement consulter dans n'importe quel projet. C'est-à-dire que cela a été fait, c'est-à-dire que ce projet, je ne parle pas des dalles elles-mêmes, on y reviendra peut-être après, mais le projet de rétablir le cloître dans ses dimensions d'avant 1905 a été présenté au Conseil Général il y a quelques années, a été présenté également enfin, dans un rapport au Grand Conseil, a fait l'objet de toutes sortes de consultations auprès des commissions d'utilisateurs, de la commission d'urbanisme de la ville de Neuchâtel et de bien d'autres. Donc il y a eu une large consultation. Après, c'est clair qu'il est toujours difficile, lorsqu'on voit des plans, de s'imaginer ensuite en 3D le résultat final. Et je pense que c'est là où il y a peut-être une incompréhension. L'autre élément, c'est qu'on est dans un jardin. Et tout jardin qui vient d'être fraîchement réaménagé est en général assez désagréable à l'œil pendant quelques semaines ou quelques mois.
Jules Aubert, vous, ce que vous demandez, c'est purement et simplement qu'on revienne à ce qui était avant, jardin, allée, gravier, fleurs ?
Exactement, oui. Je pense que c'est un monument de notre patrimoine que la population a à cœur de conserver dans son état initial. Et puis, je pense que ce serait une bonne chose si on peut revenir à l'état ancien.
Vu la levée de bouclier, c'est envisageable ça, Jacques Bujard, finalement, de faire machine arrière?
Alors, tout est envisageable. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le projet qui vient d'être réalisé, puis qui est un projet 100% réversible, hein, sont des dalles qui sont posées sur la terre et qui peuvent être enlevées en quelques heures. Ce projet permettra d'utiliser ces prochaines années le cloître en complément de l'église qui est amputée de la moitié de sa surface pendant les travaux, puisque les travaux vont se déroulent en ce moment dans le chœur et le transept. La nef seule reste à disposition, et encore, la moitié de la nef seule reste à disposition des fidèles et des usagers de l'église. Puis, dans 3 ans, on change. Et donc, cette très petite surface à disposition des paroissiens avait aussi amené les représentants de la paroisse et de la Société des Concerts à demander de pouvoir utiliser le cloître de manière un peu plus large pendant la durée du chantier.
Ça veut dire qu'on est allé trop loin dans cette rénovation, franchement ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a probablement une incompréhension. Pour moi, ce qui est dangereux, c'est quand on bafoue la charte de Venise, par exemple, en faisant des dégâts irréversibles sur un monument. Dans ce cas-là, ça n'est absolument pas le cas. Ce qui a été enlevé, c'est effectivement du gazon. Ce sont des bordures béton et pavés granit des années 50 ou 60, et c'est tout. Donc, si on veut revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Je crois que vous signalez les deux colonnes qui se trouvaient au milieu du cloître. Elles avaient été posées il y a quelques dizaines d'années suite à la démolition d'un bâtiment en ville.
D'accord.
Voilà.
Une dernière question, Jacques Bujard, parce que vous en êtes, j'imagine, pas votre première polémique dans ce genre de situation. Avec un peu de recul, on constate quoi ? Que le public, finalement, s'habitue à la nouveauté ? Ou alors là, vous avez le sentiment qu'on est dans un conflit bien plus ancré que les autres ?
Non, alors je pense que non. En fait, les polémiques, si on est conservateur cantonal comme je le suis, il faut s'y habituer parce qu'autrement, il faut changer de métier assez rapidement. Mm-hmm. Il faut simplement qu'on explique, qu'on prenne aussi en compte les critiques. Hein, et toute critique est évidemment à écouter, mais peut-être aussi donner le temps. Un petit peu de temps au temps. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a un aspect différent de celui qu'il y avait avant, oui. Mais un aspect qui a été réfléchi aussi par les architectes et par le paysagiste qui a créé le jardin. Il y a plus, c'est intéressant de voir qu'il y a une surface de fleurie qui est plus importante dans le projet actuel que dans la situation qu'on avait juste avant.
Très bien, merci beaucoup messieurs, un grand merci d'avoir été avec nous pour prendre part à ce débat. Merci Jacques Bujard et Jules Aubert.
Merci à vous.
Merci bonne à
soirée.
Vous.
Une très bonne soirée.
Merci
et puis, évidemment, on suivra l'évolution de ce dossier qui n'en est sans doute pas à son dernier rebond. Ben, en parlant de rebond, justement, tout de suite, on parle basket.
Place publique.
Avec le tour intermédiaire de Liga de basketball qui débute ce soir avec au programme notamment Union Neuchâtel Star Wings à 19h30. Ce sera d'ailleurs à suivre en direct sur RTN dès 19h15. Et Boncourt joue demain à 17h30 à domicile contre Winterthur. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce que ce tour intermédiaire marque l'arrivée d'une nouvelle formule pour le championnat, pour faire simple. À l'issue d'une phase classique match aller-retour, les 6 premières équipes se retrouvent entre elles pour disputer un tour intermédiaire avant les playoffs. Et les 4 dernières se retrouvent aussi entre elles, ou plutôt les 5 dernières, se retrouvent aussi entre elles pour un tour intermédiaire avec pour enjeu de prendre les 2 dernières places qualificatives pour les play-offs. Vu comme ça, c'est pas le système le plus simple et c'est pour ça qu'on a invité Valentin Wegmann pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir.
Valentin, vous êtes un ancien joueur international. Beaucoup vous connaissent, en tout cas parmi ceux qui suivent le basket avec assiduité. Aujourd'hui, directeur des compétitions de la Swiss Basketball League. Pourquoi avoir changé de formule cette année, sachant que l'an dernier, il y avait un troisième tour entre toutes les équipes avec seulement un avantage domicile extérieur pour les meilleurs du classement?
Oui, alors, en effet, bah déjà, il faut savoir que l'année passée, il y avait que ou moins d'équipes, donc il y avait 10 équipes. Mmh. Donc ça faisait en effet 3 fois les 9 matchs, donc ça faisait 29 journées par équipe.
Oui.
Cette année, si on avait opté pour la même formule, ça aurait donné en tout 33 journées, donc à savoir 6 de plus. Et puis ça voudrait dire aussi que pour placer tous ces matchs, ben, il faut trouver des dates. Et puis les clubs, ils ne sont pas très favorables pour ces doubles week-ends. Vendredi, dimanche. Donc, avec ce tour intermédiaire, ça ça, on a passé de 27 matchs à 24 pour les équipes classées entre le 7e et le 11e et 25 pour les équipes classées au 1er ou 6e rang. Donc on était capable de réduire quand même de 27 matchs à 25. Et en plus, on a pu réduire de 6 ou 7 double week-ends l'année passée à 4 double week-ends cette année.
Donc c'était une volonté d'alléger le calendrier, mais pourtant si on regarde nos voisins qui ont des championnats qui nous ressemblent, on pense peut-être au Luxembourg, à l'Autriche, ils ont 35 journées quasiment par saison.
Oui, exactement. Donc nous, c'est justement ça bien le problème, parce que les clubs, nous on a fait, par le passé aussi, c'était même quand j'étais au gros joueur, la Ligue à l'époque, ils ont essayé de placer les matchs aussi le mercredi. Donc ça veut dire par exemple de jouer mercredi et samedi. Mm-hmm. Et puis là, on a vu quand même une affluence qui était nettement en bas. Donc nous, aujourd'hui, il y a quand même des rencontres qui sont moins attractives en termes de spectateurs maintenant. Si Neuchâtel, par exemple, il joue une troisième ou une quatrième fois contre Winterthur, bah, le public n'a pas forcément cette même intérêt. Mmh. Et ben, c'est quand même aussi le but d'avoir des matchs attractifs. Et puis pour cela, on a décidé justement de tenir compte de tous ces aspects-là pour créer ce troisième tour qui est d'une côté qui a des affiches qui sont très intéressantes pour le public quand on pense à Neuchâtel contre Monté ou Monté-Neuchâtel ou Neuchâtel-Genève contre Fribourg. Donc, c'est des matchs très attractifs pour le public. Et en même temps, on a cette chance aussi que cette année, en fait, pour entre le place 7 et 11, ben, y a quand même les clubs qui luttent pour les players. Donc, ces matchs, ils ne sont pas pour rien. Et puis, ben, les équipes doivent se battre pour quelque chose. Donc, les équipes entre le 2e et le 5e place sont départagées par 2 points ou par 4 points uniquement. Donc, il y a tout qui reste encore ouvert. Et puis, c'est très attractif. Donc, il faut comparer ce qu'on peut comparer. Moi, je prends la Finlande comme exemple. Oui, c'est vrai, ils jouent 36 matchs, donc 10 équipes, 9 fois 4. Mais les clubs, ils ne veulent pas, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas un truc quantitatif juste pour remplir nos calendriers. Mais on a opté pour la qualité. Même on entend justement ces critiques qu'on a entendues un petit peu. C'est bah, même 2 tours suffiraient. Donc ça veut dire que les clubs, ils joueraient encore avec 11 équipes. Hein, ils jouent encore 20 matchs. Oui. Ce qui nous semble justement pas assez.
Alors justement, vous parlez d'enjeux, de suspense finalement pour attirer le public. Je vous propose d'écouter l'avis de Manu Schmidt, l'entraîneur d'Union Neuchâtel, parce qu'il a un avis finalement assez tranché sur ces changements de formule.
Je me mets à la place du public, notamment du non-spécialiste de basket, qui aujourd'hui suit l'équipe d'Union Neuchâtel parce que ça lui a plu, ce qu'il a vu à la salle. Et ces gens-là, qui ne sont pas forcément des spécialistes, ont un peu de mal à s'y retrouver. Et donc je pense que c'est toujours un peu problématique, tous les ans, d'inventer une nouvelle formule. Moi, je suis plutôt partisan des formules simples. Bah, soit il y a des matchs aller, des matchs retour, éventuellement une deuxième série de matchs aller, de matchs retour, et puis après des play-offs. D'une manière générale, je trouve que c'est toujours beaucoup plus clair que des espèces de mix entre un troisième tour où on joue une fois à la maison, une fois à l'extérieur. Et je pense qu'il faut vraiment, et là j'insiste là-dessus, qu'on s'intéresse au nouveau public basket, parce que c'est ces gens-là qui feront qu'on va augmenter le nombre de spectateurs, augmenter le nombre de gens qui suivent, et ça permettra de populariser notre sport. Le grand public, il vient voir un spectacle. Je pense que c'est important que ces personnes-là n'aient pas besoin d'avoir un mode d'emploi en permanence dans leur poche pour comprendre quel est l'enjeu du match. Très honnêtement, je ne me rappelle même plus de celle de la saison passée. Je suis obligé de réfléchir pour la retrouver, donc tout est résumé.
Valentin Wegman, est-ce qu'on n'ajoute pas finalement de la confusion en créant des modes de championnat un peu particuliers comme celui-là?
Je ne peux pas. J'admire Manu pour son travail, c'était mon coach à l'équipe nationale.
Moi, pour ses critiques.
Je ne suis pas forcément son avis dans le sens où le public, est-ce que le nouveau public, est-ce qu'il se déplacerait justement, moi, je n'ai pas bien compris s'il devrait avoir plus de matchs ou moins de matchs.
Alors, ce n'est pas plus ou moins, c'est plus classique. C'est-à-dire éventuellement un troisième tour classique comme ça se faisait l'an dernier. Mais voilà, pas scindé.
Alors, je vous dis concrètement ce que ça voudrait dire. Si on était resté avec la même formule comme l'année passée, ça voudrait dire qu'on aurait eu 33 journées. Et bien après, c'est même, peut-être pas les coachs, parce que peut-être eux, ils sont pour avoir ça, mais ces mêmes personnes après, ou ces mêmes clubs après, ils vont dire, mais nous, on ne veut plus de double week-end.
Oui.
Parce que pendant la semaine, ils n'ont pas de public. Donc, ils ne peuvent pas avoir, ils veulent créer des recettes, ça, je comprends. Donc, justement, pour moi, de créer des recettes, c'est on sait que dans certaines affiches, un club perd presque de l'argent en jouant un match. Donc de créer de recettes. En même temps, ils aimeraient pas trop payer les joueurs trop longtemps. Donc, on doit presque encore raccourcir. Donc, aujourd'hui, un championnat plutôt long par rapport aux autres championnats. Donc, ils peuvent pas avoir tout.
Oui,
donc, après, et puis après, ce qu'il faut encore savoir, c'est que la compétence, en fait, de ces calendriers LSD, à l'inverse de ce qui s'est passé à la LNBA, elles reviennent au club. C'est les clubs qui décident. Nous, par exemple, pour vous donner un exemple concret, nous, on était pour une relégation, parce que pour nous, on pense que d'avoir 11 équipes dans notre championnat, c'est ingérable, parce qu'il y a chaque week-end, il y a une équipe qui
joue pas. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les clubs, ils ont refusé cette proposition. Donc moi, j'aimerais aussi dire aux clubs, prenez votre responsabilité, dites-nous ce que vous aimez. Nous, on fait des propositions pour finir, mais à la fin, c'est les clubs qui décident, ça, il faut savoir. Mmh. Et bien après, on a eu un même discours. La Manu Schmitz, il fait partie maintenant des gens qui disent pour cette et cette raison, il n'est pas content. Mais est-ce qu'il tient compte de tout ça? Ok, de rester ça, mais pour ça, vous, ça aurait dit, si on a dit, ok, on reste sur le même mode, 33 matchs à placer dans le laps de temps. Et puis après, ça aurait été, oui, mais vous pouvez pas vous imaginer, le mercredi soir, on doit jouer contre Winterthur, mais il n'y a personne qui vient voir le match. On aurait eu, après, il y a d'autres qui auraient se plaint de l'autre côté. Donc je pense, encore aujourd'hui convaincu, on a trouvé un super compromis pour présenter des matchs attractifs maintenant pour ce troisième tour. Le nouveau spectateur, je pense, il viendrait, le premier match qu'il vient voir, Union Neuchâtel contre Fribourg, c'est bien plus attractif que s'il vient le premier match voir Union Neuchâtel contre Winterthur.
Valentin Wegmann, je voudrais juste garder deux petites minutes pour aborder une autre problématique. C'est qu'il y a, il y a deux clubs qui sont en grosse difficulté financière, justement, qui vont se battre pour une place en play-off dans ce tour intermédiaire. C'est Lausanne et Suisse Centrale. Suisse Centrale qui doit réunir 30 000 francs d'ici la fin du mois. Il y a eu un appel aux dons. Lausanne avait obtenu lui aussi un sursis, mais devait encore réunir de l'argent. Quelles sont les nouvelles de ces clubs? Et puis, est-ce qu'il y a une justice sportive, finalement, et administrative à les voir continuer et peut-être prendre une place en play-off à d'autres équipes?
C'est aussi là-dessus, il faut comprendre la globalité du problème. Donc aujourd'hui, je pense avec les deux équipes, ils vont tenir jusqu'à la fin de la saison. C'est aujourd'hui, on est convaincu chez Swiss Basketball. Ils sont dans les délais par rapport à chez nous, par rapport aux factures et tout ça.
Mais vous avez eu des garanties?
Des garanties, on peut comparer au foot, on a jamais de garantie. Mais aujourd'hui, on est très très convaincu que les deux équipes ils puissent finir d'une manière régulière le match. C'est d'ailleurs aussi la volonté, mais même du
d'accord, ils vous ont rassuré.
Donc nous, on est convaincu jusqu'à maintenant, depuis avec Lausanne, eux, ils ont tenu toutes leurs promesses depuis qu'on leur a vu au début janvier en termes des conditions qu'on leur a imposées. Vis-à-vis de nous. Donc après, on a moins de contrôle que ce qu'ils font vis-à-vis de leur fournisseurs ou autres parties. Ça, on peut pas. Et puis à Lucerne, donc il y a pas vis-à-vis de nous, il y a pas un front qui n'est pas rentré. Donc nous, on peut pas. Si eux, ils respectent les délais. Maintenant, ils ont
en 10 secondes, Valentin Wegmann.
Oui, vous m'entendez?
Oui, en 10 secondes, on n'a plus que 10 secondes avant de terminer.
D'accord. Alors oui, on est pour les deux clubs, on est convaincus qu'ils puissent finir la saison d'une manière tout correcte et puis d'accord. Que ça se joue jusqu'à la fin. Bien.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valentin Wegmann. Et je vous souhaite une très bonne fin de saison. Place publique, c'est terminé, mais c'est à réécouter sur notre site internet dès ce soir ou sur les applis smartphone RTN, RJB, RFJ. C'était Yves Londono à la réalisation. Merci beaucoup. Et dans quelques minutes à 19h, Léon Béret pour les informations. Allez Union, allez Boncourt et bonne soirée.
Place publique.